Bonjour à tous. Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il le dit en Matthieu 6 au verset 24 et dans l'évangile de Luc au chapitre 16 au verset 13. Si vous êtes présent ce matin, vous connaissez Dieu. C'est en son nom que nous sommes réunis. C'est à travers sa parole, la Bible, qu'il se révèle à nous. Un jour ou l'autre, nous avons fait une démarche pour servir ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Mammon est une divinité en rapport avec l'argent, l'avarice et la cupidité. D'après le dictionnaire, la cupidité, c'est le désir indécent et mesquin de gagner de l'argent, de faire argent de tout. Alors ce matin, je vous propose dans un premier temps la lecture de la parabole de l'économe infidèle en Luc 16, les versets 1 à 17. Cela nous permettra de replacer dans son contexte cette affirmation de Jésus que « nul serviteur ne peut servir deux maîtres ». Lisons Luc 16, versets 1 à 17. Jésus dit aussi à ses disciples « un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. » Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'écart de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Personnellement, je ne me souviens pas d'avoir entendu une quelconque prédication ou étude biblique sur cette parabole de l'économe infidèle. Ma Bible commentée, de M. John MacArthur, résume cette histoire de la façon suivante. Tombé sur un plus malin que lui, le maître approuve la ruse de cet homme. Son admiration pour le génie criminel du mauvais économe montre qu'il est lui aussi un homme méchant. Il est à remarquer que tous les personnages de cette parabole sont méchants, peu scrupuleux et corrompus. Voilà pour le commentaire de M. John MacArthur, éminent théologien. Circulez, il n'y a rien à voir. On passe à autre chose. Eh bien, nous allons ce matin décortiquer quelque peu cette parabole qui, somme toute, est d'une actualité remarquable. Dans le récit de Luc, Cet enseignement de Jésus vient juste après la parabole bien connue et largement commentée du fils prodigue, et avant celle de l'homme riche et du mendiant Lazare, qui, vous le savez, l'un ira auprès de Dieu après sa mort et l'autre brûlera en enfer. Jésus s'adresse donc à ses disciples, mais également aux pharisiens, les religieux qui organisaient, encadraient et contrôlaient les pratiques religieuses du peuple de Dieu. Ils en tiraient leurs revenus. Au verset 14, nous avons lu les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Jésus agit en son temps comme un lanceur d'alerte sur les pratiques injustes et contraires à l'esprit de la loi. Revenons à notre histoire. Un homme riche apprend que le gestionnaire, le gérant de sa fortune, dissipe ses biens. Le fait de dissiper ses biens ne constitue pas en soi un acte malhonnête. Je m'explique. Dans la Bible, le mot « dissiper » paraît-il en grec « diaskopizo », je ne suis pas un spécialiste du grec, mais j'ai vu ça, est souvent traduit par le verbe « disperser », sans qu'on y retrouve une connotation morale. C'est le même verbe utilisé dans la parabole précédente où le fils prodigue dissipe son bien. Ce qui n'est pas forcément mal, mais malheureusement, il l'a utilisé pour vivre dans la débauche. C'est ça qui est mal. Donc le gérant dissipe l'argent de son patron, qui apparemment ne s'en est pas aperçu lui-même, puisqu'il apprend par quelqu'un que son argent est dissipé. Donc son argent est dissipé par son employé incompétent, probablement dépassé par l'ampleur de sa tâche, voire même motivé par une attitude de contestation de l'accumulation de richesses de son maître, il est démasqué. Le patron le convoque et lui signifie son licenciement. « Tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'employé va se retrouver sans travail et sans revenu dans quelque temps. Et bien comme aujourd'hui, dans les situations stressantes et difficiles à vivre, le futur chômeur fait son bilan de compétences. « Que ferai-je ?» Ne pouvant travailler la terre, ne voulant demander la charité en mendiant, il réfléchit et une idée lui vient. Pour ne pas se retrouver seul et isolé en situation matérielle difficile, sans travail et sans revenu, il va développer un réseau d'amis susceptibles d'amortir, d'adoucir par l'entraide et la solidarité les difficultés du quotidien, de sa future situation précaire. Et les premiers auxquels il pense sont effectivement les clients du créancier de son patron. Le premier doit 100 mesures d'huile et l'employé indélicat lui dit de noter qu'il n'en devra plus que 50. Le deuxième doit 100 mesures de blé et l'économe lui dit de noter qu'il ne doit que 80 mesures de blé. Apparemment, notre intendant aggrave son cas. Remarquez, il n'est plus à 50 mesures d'huile et 20 mesures de blé, près, puisque, avec tout ce qu'il a déjà fait perdre à son patron, il ne le remarquera pas. On s'attend, dans la suite du récit, que son riche patron lui tombe dessus pour aggraver sa peine et, par exemple, en plus de lui faire perdre son emploi, de le vendre, lui et sa famille, en esclavage. Mais non, à la grande surprise de tout le monde, Jésus raconte, au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ceux qui l'avaient agi en homme avisé. Méfions-nous de nos réflexes pour juger de ce qui est bien ou mal en fonction de notre éducation, de notre contexte socioculturel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour qu'au final, le patron dise du bien de lui et le complimente sur la façon dont il va gérer la suite de son licenciement? L'homme riche tirait ses revenus du prêt d'huile et de blé. Le client, qui sollicitait la mise à disposition de ses denrées, s'engageait à les restituer avec des intérêts. J'invente pas, c'est une personne sérieuse, un universitaire anglais, qui a écrit un ouvrage là-dessus, « Law in the New Testament », Monsieur Derrett, hein, je cite mes sources. Donc, intérêt élevé pour l'huile, 100% au bout de quelques temps, et moins élevé pour le blé, 25% au bout de quelques temps. N'oublions pas que Jésus s'adresse à ses disciples et également aux pharisiens qui connaissent parfaitement les lois et commandements de l'Ancien Testament. Eh bien, ses intérêts sont parfaitement illégaux. Exode 22, verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Également dans Lévitique 25, les versets 35 à 37, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Et également dans Deutéronome 23, le verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Voilà la clé pour la compréhension de cette parabole de l'économe infidèle. L'homme riche s'enrichissait grâce à la facturation d'intérêts non autorisés par la loi du peuple de Dieu. L'économe infidèle annule ses intérêts illégaux. 50 mesures d'huile pour le premier client et 20 mesures de blé pour le deuxième client. Il fait passer la justice de Dieu avant la cupidité des hommes. Et en cela, l'homme riche de la parabole ne peut pas se permettre de contester la mise à jour des créances avec l'annulation des intérêts facturés abusivement. L'employé licencié rappelle par son action à tout le monde, patron et client, que dans le monde, les relations entre les personnes sont meilleures lorsque les uns et les autres tiennent compte et mettent en pratique les principes que Dieu révèle aux hommes et aux femmes à travers sa parole sainte. Ce message s'adresse directement aux pharisiens qui avaient autorisé le prêt à intérêt. Sous prétexte que cette disposition législative avait pour but de protéger les plus démunis, mais d'après leur interprétation abusive, elle ne s'appliquait pas aux entreprises commerciales. La règle était établie par Dieu, les pharisiens ont imaginé de la détourner pour leur avantage. L'économe infidèle a remis en cause une pratique abusive et a pu se reconstituer un réseau de relations amicales et solidaires pour son avenir. Et c'est en cela que le maître a dit de lui qu'il avait agi en homme avisé. Alors, dans cette parabole, où se cache Mammon, le dieu de l'argent, de l'avarice et de la cupidité? Premièrement, dans le cœur des pharisiens qui ont autorisé le prêt à intérêt pour les entreprises commerciales à travers une interprétation abusive de la loi de Moïse. Deuxièmement, Mammon est présent dans le quotidien de l'homme riche, tellement riche qu'il n'a même plus besoin de s'occuper lui-même de ses affaires en les déléguant à l'économe. Troisièmement, Mammon est présent dans le métier de l'économe qui prête à intérêt, facture et encaisse sans pitié simplement parce que c'est son travail. Quatrièmement, Mammon est présent dans l'angoisse de ne pas pouvoir rembourser les 100 mesures d'huile et les 100 mesures de blé, intérêt abusif compris, à l'arrivée des échéances des prêts. Subtil et insidieux, Mammon investit la vie quotidienne de tous les personnages de cette parabole. Et Jésus de conclure, au verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Par son licenciement, l'économe infidèle trouvait, par là même, une nouvelle occasion de servir Dieu seul. Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Nous, les chrétiens, annonçons la naissance à venir de Jésus, le Fils de Dieu, enfanté par Marie à Bethléem il y a environ 2000 ans. Et nous fêterons Noël le 24 décembre au soir, comme tout le monde. En attendant, il faudra nous préparer. Il est curieux que, dans notre France laïque contemporaine, Noël, une fête religieuse chrétienne, envahi tout l'espace médiatique, commercial et publicitaire. Je suis étonné, particulièrement cette année, de la déclinaison multiple et variée du fameux calendrier de l'Avent. Calendrier traditionnellement chrétien, qui nous aide à nous préparer à fêter la venue de Jésus sur terre. Tout le monde invente et vend son calendrier de l'Avent, sans aucune référence au Fils de Dieu, venu sur terre. Chocolat, friandises, parfums, accessoires de loisirs et de bricolage, et même un calendrier diffusé par Interpol avec 24 fenêtres à ouvrir, faisant apparaître des têtes de criminels recherchés. J'ai comme l'impression que Mammon cherche et réussit à détourner l'attention des gens par des inventions futiles et superficielles. L'explosion et de la banalisation des fameux marchés de Noël va dans le même sens. Il est quand même curieux que certains contestent la présence d'une crèche dans l'espace public et organisent en même temps la sécurité pour les marchés de Noël. Mammon aurait-il une emprise quelconque sur les fanatiques de la laïcité mal comprise? Que dire en plus de ces hauts lieux de la consommation, ces temples dédiés au commerce érigés en périphérie de nos villes dont la fréquentation augmente sensiblement pendant ce mois de décembre? On nous annonce même, sondage à l'appui, que les familles françaises dépenseront quelques 500 euros pour les fêtes de Noël en 2016. Mammon à tous les niveaux, comme dans la parabole de l'économe infidèle. Et pourtant, Jésus dit au verset 9 de notre passage, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Serait-ce une incitation à dépenser de l'argent pour faire des cadeaux autour de soi? L'économe infidèle a lâché quelques mesures d'huile et quelques mesures de blé pour se faire des amis. Le maître le loua pour cette action. Et Jésus insiste pour dire au verset 8, « Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Dépenser de l'argent pour faire des cadeaux permet d'apaiser et d'enrichir les relations entre personnes. Le monde pratique cela en cette période de Noël. Pour aller au-delà de cette pensée, je suggère qu'il vaut même mieux que les hommes et les femmes prennent du temps et dépensent de l'argent pour se faire des cadeaux, plutôt que d'acquérir des armes ou de construire des murs de séparation entre les peuples. Mais nous, les enfants de lumière, comme dit Jésus, soyons attentifs, en particulier en cette période d'avant Noël, à continuer de servir Dieu et non pas Mammon. Pour conclure, l'économe infidèle a réduit significativement la dette des créanciers de l'homme riche. Jésus dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Être avisé, c'est agir avec à propos et intelligence après avoir mûrement réfléchi. Lorsque nous essayons d'évaluer une action de quelqu'un pour nous faire une idée si c'est bien ou mal, ne nous laissons pas trop influencer par nos préjugés, notre éducation pour conclure hâtivement que tout le monde est méchant. Au travers de cette parabole et pour cette période avant Noël, Jésus nous encourage à entretenir, développer, à élargir nos relations, sans juger à la hâte de ce qui est bien ou mal. Et Jésus nous met en garde. Si vous êtes enfants de Dieu, ne vous laissez pas séduire et asservir par l'attrait des richesses de ce monde. Nous lirons encore dans Matthieu 6, les versets 19 à 21, le passage du sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ensuite le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et finalement, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'économe infidèle a contribué à rétablir la justice de Dieu en supprimant les intérêts abusifs et en créant du lien social solidaire contre la précarité. C'est pour cela que le Maître a fait son éloge. Amen.